Alors, il y a tout juste un mois, le père Jacques Hamel, prêtre catholique, a été assassiné par deux terroristes islamistes pendant qu'il célébrait la messe dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Vous vous en souvenez certainement, l'information ne nous a pas échappé, ça fait un mois maintenant. Quelques jours après ce meurtre, l'État islamique a sorti un nouveau numéro de son magazine de propagande où il explique pourquoi les musulmans, d'après eux, pourquoi les musulmans devraient haïr les chrétiens et les combattre. Et ces événements du mois dernier m'ont rappelé en fait ce qui s'est passé ce qui s'est passé en 2007, donc il y a pratiquement 10 ans, en Turquie. Vous vous en souvenez peut-être de ce qui s'est passé lorsque un missionnaire chrétien allemand et deux chrétiens turcs ont été eux aussi agressés par des islamistes. Ils ont en fait été torturés puis égorgés à l'endroit où ils s'étaient réunis pour leur étude biblique hebdomadaire. Ce genre d'événement tragique, qui a lieu finalement assez régulièrement, nous confronte assez brutalement à une dure réalité, c'est que c'est pas anodin d'être un chrétien. C'est pas anodin d'être un chrétien. Aujourd'hui, on estime que près de 200 millions de chrétiens dans le monde sont victimes d'intimidation, de discrimination et de violence, ce qui fait du christianisme la religion la plus persécutée au monde aujourd'hui. Mais face à ce genre d'opposition, ce genre de constat d'opposition, on peut être amené à se demander, mais finalement le christianisme, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que vous n'êtes jamais posé la question, mais est-ce bien raisonnable d'être un chrétien ? Et ce matin, ce soir, ça fait pourtant 6 ans qu'on se réunit le soir, mais bon, ce soir, venez peut-être à l'église en ressentant de la peur face à ces événements, la peur de faire l'objet, vous aussi, un jour, peut-être, d'une attaque terroriste, ou bien peut-être que vous êtes tout simplement découragé pour d'autres raisons, votre foi vous semble bien fragile, vulnérable, elle ne semble peut-être pas porter beaucoup de fruits dans votre vie ou autour de vous, peut-être que vous êtes venu à l'église ce soir en ressentant du doute, peut-être en étant intimidé par la société qui vous entoure, qui, si elle n'est pas encore islamiste, est en tout cas bien résolument séculière, cette société qui cherche à vous convaincre peut-être que les gens vraiment normaux, c'est pas ceux qui sacrifient leur dimanche après-midi pour aller au culte, mais c'est ceux plutôt qui en profitent pour aller à la piscine ou faire une promenade avec les amis. Ou bien peut-être que ce soir vous venez à l'église, mais vous vous dites pas franchement chrétien, peut-être que vous êtes plutôt un observateur, vous êtes encore au stade de l'observation, vous êtes curieux, vous êtes intrigué par ce que vous voyez et ce que vous entendez, vous vous posez peut-être la question de ça, mais qu'est-ce que c'est cette foi chrétienne ? Cette foi qui se démarque, j'ai l'impression, de tout ce que j'entends 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la télé, à la radio, de ce que je vois autour de moi, de ce que je lis, de ce que j'entends de la part des copains ou de ce que j'entends de la part des profs à l'école ou des collègues au travail. Peut-être que vous êtes un autre genre d'observateur aujourd'hui, vous n'êtes pas un observateur curieux, mais vous êtes un observateur critique. En fait, vous avez déjà fait votre opinion et vous savez bien que la foi chrétienne n'est pas raisonnable, justement. Ça ne vaut pas le coup et vous ne comprenez pas que des gens qui se prétendent intelligents puissent être prêts à suivre le christianisme, à se dire chrétien, à se mettre en danger pour cette foi, voire même à mourir pour elle. Quelle que soit notre position ce soir, vous allez voir qu'on va lire un psaume qui s'adresse à chacun de nous avec un message étonnant qui, si vous écoutez bien, ne devrait pas pouvoir vous laisser indifférent. Un message qui, si nous le comprenons bien, si nous écoutons bien, doit nous forcer en fait à nous positionner. Il n'y aurait pas de réponse logique sinon de se positionner. Et ce message, en nous forçant à nous positionner, a le potentiel de changer notre vie tout entière et votre vie tout entière. En fait, vous allez voir ce psaume, c'est le psaume 2, le deuxième psaume du livre des psaumes dans l'Ancien Testament. Ce psaume nous décrit sans détour la réalité, selon Dieu, du monde dans lequel nous vivons. Et c'est cette réalité, si nous la comprenons bien, cette réalité, si nous en tenons vraiment compte, qui a le potentiel de changer radicalement la façon dont nous considérons la vocation chrétienne. Et cette réalité, c'est la suivante. Notre monde appartient complètement et définitivement à Jésus-Christ. Notre monde appartient complètement et définitivement à Jésus-Christ. Lisons ce psaume. Psaume 2. Nous lisons la parole de Dieu. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, ayez du discernement, recevez instruction, juge de la terre, servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse, en tremblant. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Je vous invite à la prière. Merci notre Dieu pour l'occasion que nous avons encore ce soir d'étudier ta parole et nous prions que tu bénisses ces instants, que tu les rendes fructueux, pour notre vie, pour notre foi, que tu nous aides, Seigneur, à mieux te connaître, pour mieux ensuite te servir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Notre monde appartient complètement et définitivement à Jésus-Christ. On pourrait partager ce psaume en quatre parties, quatre strophes, si vous voulez, où il est question, vous avez le plan sur vos feuillets, il est question successivement d'une rébellion généralisée, d'un règne établi, d'une reconquête inéluctable et d'une réponse nécessaire. Alors la première chose que le psalmiste nous dit ici, versets 1 à 3, c'est que tout le monde cherche à rejeter Dieu. Tout le monde cherche à rejeter Dieu. En fait, le psalmiste, l'auteur de ce poème nous décrit une réalité qu'il observe autour de lui, et cette réalité prend les airs d'un complot à l'échelle planétaire. Il nous dit au verset 2, « Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel. » Il nous explique ici qu'il y a un point commun entre toutes les puissances de ce monde. Et quand je dis « toutes les puissances de ce monde », nous sommes inclus là-dedans. Parce que nous aussi sommes une sorte de puissance dans ce monde, nous exerçons une puissance dans une certaine sphère d'autorité, une sphère d'influence si vous préférez. Et ce point commun qu'il y a entre toutes les puissances du monde, c'est un désir commun, celui de se débarrasser de nos obligations vis-à-vis de Dieu, alors que nous sommes la création de Dieu. Il y a là une tendance universelle, refuser la dépendance et la redevabilité, c'est-à-dire le fait de devoir rendre des comptes. Et nous sommes tous concernés par cette tendance qui nous est naturelle. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, parlant cette fois d'un point de vue plus individuel, des gens, il dit, il n'y a pas de distinction entre les gens. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de position, si vous voulez, intermédiaire, où on serait un petit peu entre être privé de la gloire de Dieu et être au bénéfice de sa gloire. Un peu comme si on était dans une zone de neutralité entre les deux. Non, d'après le psalmiste, d'après toute la Bible, d'après l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, soit nous aimons le joug de Dieu, qui est un joug positif, un joug bienfaisant, soit nous le rejetons. Et en réalité, nous sommes tous par nature dans la deuxième catégorie. Nous rejetons naturellement le joug de Dieu. On ne veut pas être dépendant de Dieu, on ne veut pas être redevable à Dieu. Alors, il y a beaucoup de gens autour de nous, et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, beaucoup de gens qui se disent, je ne suis pas une si mauvaise personne que ça. J'ai l'impression de m'être fait une bonne petite recette personnelle pour vivre ma vie de manière assez morale, assez juste, assez droite. Je ne fais pas du mal aux gens autour de moi, j'ai tué personne, je suis fidèle à ma femme ou à mon mari, etc., etc. Mais quand l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, dit « il n'y a pas de distinction, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu », il met tout le monde sans distinction dans le même camp qui est celui de ceux qui cherchent à rejeter Dieu. Ce qui veut dire que même si vous n'en avez pas l'impression, vous êtes en réalité plus proche, par nature, plus proche d'un Hitler, d'un Ben Laden, d'un autre terroriste ou d'un pédophile que de Dieu. Car vous êtes dans la catégorie, par nature et moi aussi, de ceux qui sont privés de la gloire de Dieu, de ceux qui ont péché et qui sont privés de la gloire de Dieu. Alors si vous imaginez votre vie comme celle d'un pays, voilà, moi je suis le président de la Sarani, d'accord, c'est mon pays que je gère, je suis le président en exercice de mon pays. On peut imaginer notre vie comme étant divisée en ministères, vous voyez, un peu comme notre pays, la France est gouvernée, que le gouvernement se partage la tâche entre des différents ministères. Alors dans ma vie aussi, il y a le ministère de la famille, il y a le ministère du travail, il y a le ministère des relations extérieures, il y a le ministère des vacances, des loisirs, il y a le ministère de ceci et de cela, n'est-ce pas? Et j'exerce mon influence, ma puissance, mon autorité dans tous ces ministères, c'est bien, je suis vraiment un roi tout puissant dans ma vie. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Et puis, si on élargit à l'échelle de la société et du monde, vous voyez aussi qu'il y a des sortes de ministères, des sortes de départements, des sphères d'autorité. Alors bien sûr, il y a les gouvernements des nations, mais il y a aussi les entreprises qui sont soumises à l'exercice d'une certaine autorité au niveau du conseil d'administration ou du PDG. Il y a les associations, toutes les institutions, même la culture est soumise à l'exercice d'une certaine autorité, d'une certaine influence. Ce que dit le psalmiste ici, c'est que toutes ces puissances, tous les princes, tous les rois de ce monde se liguent ensemble avec cette tendance naturelle et commune, plus ou moins appuyée, plus ou moins manifeste, la tendance qui consiste à chercher à se débarrasser de Dieu, alors que nous sommes sa création, alors que nous vivons dans sa création. La tendance qui consiste non seulement à se débarrasser de Dieu et de son autorité, mais à devenir autonome. Autonome, ce qui veut dire devenir une loi pour nous-mêmes. Et nous aimerions bien, n'est-ce pas, être les rois suprêmes de notre propre vie. Et certains d'entre vous me diraient, mais c'est bien la moindre des choses, non? Que je puisse exercer mon autorité dans ma vie, non? Mais en réalité, lorsque nous faisons cela en rejetant notre redevabilité vis-à-vis de Dieu, en rejetant l'autorité de Dieu, nous manifestons bien par là que nous sommes dans ce camp, le camp des rebelles. La question qui se pose, c'est est-ce que cette mutinerie généralisée sera efficace? Est-ce qu'elle arrivera à ses fins? Eh bien, la réponse du psalmiste au verset 4 à 6, la réponse est limpide. Non, non, la rébellion généralisée n'aboutira pas à ce qu'elle recherche. Elle ne réussira pas. Le psalmiste a déjà dit au verset 1 que les pensées des rebelles sont vaines. Vaines, ça veut dire qu'elles servent à rien. Elles produiront pas du fruit. Elles produiront rien d'utile. Ça ne réussira pas. D'ailleurs, Dieu est déjà au courant, parce qu'il est Dieu, il est déjà au courant de ce complot. Il est au courant de cette mutinerie. Et au verset 4, l'expression est forte. Le psalmiste nous dit que Dieu rigole. Il rit celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque. De pourquoi? Parce qu'il est Dieu et tous les autres ne sont pas Dieu. Ça veut dire que puisque Dieu est Dieu, il a déjà décidé l'issue de cette rébellion. Il a déjà décidé l'issue de l'histoire. Le sort du monde est déjà décidé par notre Dieu, qui est le Dieu unique et vivant et qui est par définition souverain. Personne ne peut rien changer au plan de Dieu. Et c'est ça la leçon de la deuxième strophe ici. Personne ne peut contrecarrer le plan de Dieu. Personne ne peut contrecarrer le plan de Dieu. Dieu a un plan qu'il a déjà décrété dans l'éternité, même avant que le monde existe. Dieu avait déjà un plan décrété de toute éternité. Et Dieu, aujourd'hui encore, est en parfait contrôle de la situation. Je sais que lorsque l'on suit l'actualité, lorsque on regarde ce qui se passe autour de nous, parfois quand on regarde ce qui se passe, pas juste autour de nous, mais au plus proche de nous, dans notre propre vie, dans nos propres expériences, parfois on a du mal à croire que Dieu est en contrôle de la situation. Mais pourtant, si Dieu n'était pas en contrôle de la situation, ça voudrait dire qu'il n'est pas Dieu. Mais parce que Dieu est Dieu, par nécessité, par définition, il est en contrôle de la situation puisqu'il est souverain. Dieu a les moyens de faire valoir ses décisions. Il a, pour reprendre l'analogie avec la politique, Dieu a le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. C'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui exécute, c'est pas, et il fait exécuter ses plans. Mais c'est Dieu qui a tous les pouvoirs, il est tout puissant. Imaginez que vous soyez le maire d'une petite commune de 500 habitants, disons peut-être une commune dans les monts du Lyonnais, à la campagne, une petite commune bien calme, retirée de la vie citadine. En fait, cette petite commune dont vous êtes le maire, elle est tellement repliée sur elle-même que vous finissez par croire en tant que maire que votre commune est en fait totalement indépendante du reste de la France. Alors vous commencez à établir un programme pour votre commune. Vous allez commencer par construire une frontière et des douanes autour de la commune. Vous allez augmenter de façon drastique les impôts. Vous allez chasser les étrangers. Vous allez rétablir la peine de mort. Vous allez acquérir l'arme nucléaire, etc., etc. Le problème, c'est que même avec vos 500 habitants, même si vous les recrutez tous pour faire partie de l'armée de la commune, vous ne pourrez rien contre le président de la République. Évidemment, lui, il a les moyens de contrecarrer vos projets alors que vous n'avez pas les moyens de contrecarrer les siens. Même si vous êtes persuadé que votre commune de 500 habitants est indépendante et que vous avez le droit de déclarer votre indépendance de la France, désolé de vous rappeler à la réalité, mais le président de la République existe et il a les moyens de réduire à rien du tout vos projets les plus grands. Et nous aujourd'hui, en tant qu'êtres humains qui pensons régner sur notre vie, nous avons tendance à oublier que le président, entre guillemets, et avec un P majuscule, que le président existe. Le président, j'entends par là Dieu, le Créateur, celui qui gouverne toute sa création, nous y compris. Non seulement Dieu est le Créateur tout-puissant de tout ce qui existe, non seulement Dieu gouverne souverainement tout ce qui existe, c'est-à-dire qu'il régit sa création, il est souverain même sur l'histoire, mais en plus, la Bible explique, comme si ce n'était pas suffisant, la Bible explique que Dieu, en plus, a manifesté ouvertement, publiquement, il a manifesté sa puissance aux yeux du monde en vainquant le plus puissant des ennemis imaginables. J'ai nommé la mort. Comment est-ce qu'il a vaincu la mort? Eh bien, en ressuscitant Jésus-Christ. Et après la résurrection de Jésus, il l'a élevé, Jésus, et il l'a placé sur un trône au-dessus de toute autre puissance. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul encore dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Éphésiens cette fois. Je voudrais vous lire ces quelques versets qui résument bien la situation. Le Père a mis sa puissance en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et si c'est, comme si ce n'était pas assez clair, il ajoute verset 22, et là il cite un autre psaume, il dit « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. » Le psaume 2 que nous sommes en train d'étudier parle de manière prophétique de ce que Dieu allait accomplir par Jésus-Christ. Alors c'est un psaume qui a été utilisé à l'époque où il a été écrit, qui a été utilisé à l'occasion de l'intronisation ou à l'occasion des couronnements des rois en Israël. Mais au fil des siècles, tous les gens qui lisaient ce psaume savaient, parce qu'ils n'étaient pas plus bêtes que nous, savait qu'aucun roi en Israël n'avait accompli ce qui était écrit là. Et il savait qu'il était question ici d'un Messie à venir qui accomplirait parfaitement ce qui est écrit là. Et lorsque le psaume dit que Dieu se moque de ses ennemis, et lorsque Dieu déclare « C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte », et quand on lit en plus la suite, on se rend compte que le psalmiste parle nécessairement de quelqu'un d'autre que juste des rois successifs d'Israël. Et le Nouveau Testament nous aide à comprendre qu'il s'agit là, dans ce psaume, d'une description de ce que Dieu a accompli par Jésus-Christ, Jésus le Messie, Jésus le roi d'Israël. Alors, si telle est la réalité aujourd'hui, si Jésus-Christ a réellement été élevé à une place, à une position suprême au-dessus de toute autre puissance, de toute autre autorité, il faut que nous apprenions à regarder plus loin que le bout de notre nez, n'est-ce pas ? Et plus haut que le haut de notre front, c'est une expression que je viens d'inventer. C'est-à-dire que nous devons nous rendre compte que nous vivons dans une réalité où Dieu a déjà établi une autorité supérieure à toutes les autres. Jésus règne. C'est ce que nous commémorons d'ailleurs à l'occasion de l'ascension dans le calendrier liturgique. Tout a déjà été mis sous ses pieds. Jésus est, aujourd'hui même, l'autorité suprême, invincible, et c'est pour cette raison que notre rébellion, notre tendance à vouloir nous rebeller contre Dieu, que cette rébellion est complètement impuissante, qu'elle est vaine au sens le plus fort du terme. Notre rébellion est vouée à l'échec. Et la rébellion de tous les ennemis de l'Évangile, de tous ceux qui voudraient instaurer une autorité concurrente à celle de Dieu, du vrai Dieu, qui est celui de la Bible, eh bien, toutes ces tentatives sont vouées à l'échec. Et lorsque vous voyez, lorsque vous êtes inquiété par la montée de l'islamisme radical, lorsque vous voyez que les terroristes semblent sévir jour après jour, semaine après semaine, dans différentes parties du monde, sachez, parce que la parole de Dieu nous le dit, que tous leurs efforts sont en fin de compte voués à l'échec. Il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère, et dans sa fureur il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et ce roi, c'est Jésus-Christ, mort, ressuscité et monté au ciel, et qui siège aujourd'hui à la droite de Dieu le Père. C'est ce que confirme ensuite la troisième strophe, où cette fois le psalmiste nous dit que Dieu a déjà donné le monde à son Messie. Dieu a déjà donné le monde à son Messie. Le psalmiste nous explique à partir du verset 7 à 9 que maintenant, ce roi qui a été sacré par Dieu sur sa montagne sainte, ce roi est en campagne aujourd'hui. Il est en activité, il est en train d'accomplir le plan de Dieu. Ce n'est pas un roi qui se repose sur ses lauriers, pour ainsi dire. C'est un roi qui exerce son autorité, qui déploie son autorité, qui accomplit le plan de Dieu. Ce plan est clair si nous considérons le message de la Bible dans son ensemble. Quel est le plan de Dieu? Quelle est la mission de Dieu? Dieu compte racheter sa création qui lui a tourné le dos. Sa création qui a tenté de déclarer son indépendance de Dieu. Dieu compte racheter sa création. Dieu compte racheter les êtres humains qu'il a créés à son image et qui ont déclaré leur indépendance de Dieu. Lorsque Adam et Ève ont commis le premier péché, qu'ils ont ainsi été séparés de Dieu dans leur relation avec Dieu. Cette relation a été brisée, rompue. Dieu aurait pu instantanément les détruire. Et il aurait été juste en le faisant parce qu'il les avait prévenus. Et c'est Adam et Ève qui ont choisi de tourner le dos à Dieu. Mais vous voyez, la Bible est extraordinaire parce que depuis le début, et jusqu'à la fin, des premières pages de la Bible jusqu'aux dernières pages de la Bible, on voit que Dieu n'abandonne pas sa création. C'est un Dieu qui va chercher les perdus, qui va chercher ce qui est brisé, qui vient, qui s'approche de sa création déchue et qui veut la racheter, qui veut la réparer, qui veut la sauver, qui veut la secourir. Et à plus forte raison, les êtres humains qui sont les éléments les plus précieux de la création de Dieu. Parce que seuls les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Et Dieu vient pour sauver les êtres humains. Il ne veut pas les abandonner, il ne veut pas les détruire instantanément, il ne veut pas les jeter en enfer sans rien faire pour eux. Il vient, il s'approche pour les sauver. Et c'est ce que la Bible nous explique, hein. Dieu, pour sauver les êtres humains, a payé le prix fort, le prix le plus fort qu'on pouvait imaginer, mais c'était le prix nécessaire, le prix de son propre Fils, Jésus-Christ, qui est Dieu éternellement, le Fils éternel de Dieu, qui a pris la condition d'un homme, qui s'est incarné, qui a vécu une vie parfaite, qui a offert cette vie parfaite sur la croix en rançon pour délivrer tous ceux qui lui feraient confiance. Et maintenant qu'il a accompli cela, Dieu a déployé sa puissance en le ressuscitant des morts, il l'a élevé à sa droite et il lui promet tout en héritage. Dieu le Père promet tout en héritage à son Fils, de sorte que tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, non seulement sont délivrés de leurs péchés, délivrés de la mort, délivrés du jugement de Dieu, mais en plus deviennent des héritiers avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que ce qu'il a promis à Abraham, il y a de cela bien des siècles, c'était l'héritage du monde par la justice de la foi. Et Abraham est notre père, est notre modèle, en quelque sorte, un modèle de la foi qui nous sauvait. Mes amis, ça veut dire que Dieu vous promet l'héritage du monde par la justice de la foi. Si vous placez votre foi en Jésus-Christ, vous devenez héritier du monde avec Jésus-Christ. Avec Abraham, avec tous les croyants fidèles de l'histoire. C'est dingue, non? L'apôtre Paul nous parle ainsi de Jésus-Christ en disant qu'il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et si vous lui faites confiance, c'est à lui que vous êtes attaché par la foi. À celui dont le nom est au-dessus de tout nom. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci, « En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si nous n'en avons pas toujours l'impression, nous vivons en quelque sorte dans un territoire occupé par l'ennemi, mais qui n'appartient pas à l'ennemi. Rappelez-vous la France occupée par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le lendemain de l'armistice consenti par le maréchal Pétain, vous vous souvenez, ça c'était le 17 juin, le lendemain, le 18 juin, le général de Gaulle a pris le micro depuis Londres, c'est le fameux appel du 18 juin, pour dire solennellement, non, la France n'est pas allemande. Elle n'appartient pas aux nazis, malgré les apparences, elle n'appartient pas aux nazis. Et du coup, à partir de ce jour-là, tous les combattants de la résistance qui se sont ralliés à cet appel du général de Gaulle, eh ben leur combat a consisté à chasser de leur territoire un occupant illégitime. Le combat des résistants, c'était pas d'envahir un territoire ennemi, mais de chasser de leur territoire un occupant ennemi, un occupant illégitime. Et si j'ose le parallèle, le message de De Gaulle pour la France, c'est en quelque sorte celui de Dieu pour la terre. Dieu dit non, la terre n'appartient pas à l'ennemi, elle m'appartient malgré les apparences. La terre est occupée par un ennemi. Et de la même façon que l'issue de la Deuxième Guerre mondiale a été déterminée au moment du débarquement en Normandie, de la même façon, l'issue de la guerre pour ce monde a déjà été déterminée lorsque Jésus est ressuscité des morts, lorsqu'il est monté au ciel, qu'il s'est assis à la droite de Dieu au-dessus de toute la création. Ce sont ces événements-là dans l'histoire qui scellent en quelque sorte, qui déterminent avec certitude l'issue de l'histoire du monde. Christ a déjà vaincu et tous les royaumes lui sont déjà assujettis. Et nous ne le voyons pas encore, mais l'histoire présente court vers ce but. Et un jour, cette réalité sera pleinement manifestée aux yeux de tous. Jésus règne, son règne se manifeste dans le monde à travers l'Église, qui est la montagne sainte de Dieu, en quelque sorte. Dieu est en train de bâtir son royaume, il est en train de déployer son autorité, et c'est ce que nous faisons à chaque fois que nous proclamons la parole de Dieu, qui est l'épée à double tranchant dans les mains du Seigneur. Dieu accomplit son œuvre, pas par des armes matérielles, hein, pas par des couteaux et des kalachnikovs. Dieu accomplit son œuvre par la proclamation fidèle de la parole de Dieu qui est entourée, qui est accompagnée de la prière fidèle des chrétiens. Alors, dernière question, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ben, la conclusion du psaume nous le dit, hein, versets 10 à 12, où l'auteur nous dit ceci. Le roi du monde nous invite à le rejoindre gratuitement. Le roi du monde nous invite à le rejoindre gratuitement. Voyez, si on est d'accord avec le constat du psalmiste pour ce qui concerne la réalité du monde dans lequel nous vivons, eh bien, je pense qu'il serait tout à fait logique, tout à fait normal qu'on se pose quelques questions importantes, non? C'est pour ça qu'il dit, au verset 10, c'est maintenant, roi, ayez du discernement. Soyez intelligent, réfléchissez un petit peu. On a dit qu'il n'y avait pas de neutralité possible, on a dit que cette rébellion généralisée était vouée à l'échec, on a dit que le règne avait été établi, le règne du Messie de Dieu, et qu'il était maintenant en train de reconquérir son territoire. Ok, est-ce que vous êtes d'accord avec cette réalité? Oui, et bien maintenant, réfléchissez un peu. Dans quel camp vaut-il mieux être? Dans quel camp vaut-il mieux être? Celui de l'occupant illégitime dont la défaite est déjà scellée d'avance? Ou bien vaut-il mieux être dans le camp du roi, le roi qui règne, le roi qui vient? La question se pose en d'autres termes, peut-être plus clairement encore. Est-ce qu'il vaut mieux accueillir le règne de Jésus comme étant le règne de celui qui va nous juger ou comme le règne de celui qui va nous féliciter? Il arrive pour revendiquer son territoire. Est-ce qu'il va me trouver ici comme son ennemi ou comme son allié? Va-t-il me trouver ici comme collaborateur de l'occupant ou comme résistant à l'occupant? Est-ce qu'il va me trouver ici confortablement assis à la table de l'ennemi, sur le banc des moqueurs, comme dit le psalmiste au premier psaume? Ou bien va-t-il me trouver ici fidèlement occupé à faire avancer son règne, déjà dans ma propre vie? Dans ma propre vie, par mon obéissance à ses voix, par la foi déjà qui s'accompagne et qui produit l'obéissance, par l'étude de sa parole, par la prière, par le témoignage. La réponse est évidente, hein. C'est pour ça que l'exhortation du psalmiste, hein, « Roi, ayez du discernement », c'est un petit peu ironique. Évidemment qu'il faut avoir du discernement, d'ailleurs il ne faut pas avoir beaucoup de discernement pour comprendre la leçon qu'il faut tirer de ce que le psalmiste a dit dans les versets précédents. Comment faire donc pour soumettre mon royaume à celui de Jésus? Est-ce qu'il faut signer un pacte de non-agression? Est-ce qu'il faut payer un impôt? Est-ce qu'il faut remplir certaines conditions? Est-ce qu'il faut compenser pour mes années de rébellion, compenser par quelques années de service obligatoire? Vous savez, les islamistes estiment qu'ils vont vaincre les chrétiens soit en les tuant, soit en soumettant les chrétiens à une autorité islamique par le moyen d'un impôt qui serait imposé aux chrétiens. Mais le règne de Jésus-Christ ne ressemble pas du tout à ça. Verset 12, la réponse est troublante de simplicité et de bienveillance. Verset 12, embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère, car c'est vrai, son règne vient, le jour du jugement approche, embrassez le Fils. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Vous voyez ce que Dieu attend de nous? C'est une relation d'affection et de confiance. Dieu n'est pas un tyran, Dieu n'est pas un dictateur. Il nous propose simplement de placer notre confiance en lui. Il nous propose tout simplement de plier le genou. Quelque part, c'est l'acte le moins cher, mais qui engage le plus la personne. Plier le genou devant l'autorité bienveillante du Seigneur Jésus-Christ. Alors vous voyez, pour récapituler, ce psaume nous a montré qu'il y avait cette tendance universelle chez tous les hommes, chez tous les puissants dont nous faisons partie, cette tendance qui consiste à rejeter nos obligations vis-à-vis de Dieu et qui consiste à chercher à la place à être autonome, une loi pour nous-mêmes. Donc, c'est normal. C'est normal d'hésiter à être un chrétien. Être un chrétien, ça ne s'impose pas parce que, comme une évidence, a priori, parce que ça va à l'encontre de ce qu'il y a en nous par nature. C'est normal de se demander si c'est bien raisonnable d'être un chrétien. C'est vrai que se placer dans une relation de dépendance de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous cherchons naturellement. Et même une fois qu'on est devenu chrétien, il y a encore cette lutte intérieure dont nous faisons l'expérience, cette rivalité entre le désir d'être autonome et en même temps ce désir que le Saint-Esprit nous inspire, le désir d'être docile face à l'autorité bienveillante de Jésus-Christ. Mais cette rébellion est vouée à l'échec, on l'a vu, elle est vaine, elle est impuissante. Dieu nous annonce qu'il a déjà établi une autorité supérieure et invincible, qui est celle de Jésus, son Fils, le Messie, qui a vaincu l'ennemi ultime, c'est-à-dire la mort, et qui est ressuscité et monté au ciel pour siéger à la droite de Dieu le Père, et qui aujourd'hui est en train de déployer son autorité sur toute la création, nous compris. Un jour, tout royaume lui sera remis. Et les royaumes qui s'opposent aux siens seront mis en pièces. Verset 9, tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Dieu l'a annoncé, il a promis à Jésus les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Chose promise, chose due, n'est-ce pas? Lorsque Dieu promet quelque chose, il l'accomplit. Comment est-ce que vous vous positionnez aujourd'hui dans ce plan de Dieu? Le roi des rois vous tend la main. C'est une invitation généreuse, miséricordieuse, une invitation pleine de grâce. Le roi tout-puissant nous invite dans son royaume, un royaume éternel qu'il a acquis pour nous. Il veut partager son héritage avec nous. Vous voyez, pour revenir à la question que je posais au début, ou plutôt au constat que je faisais au début, l'héritage que Dieu nous promet si nous sommes croyants est si grand, si précieux, que c'est pour cette raison en fait que des hommes et des femmes sont prêts à subir l'opprobre du monde, qui sont prêts à se mettre en danger et parfois à mourir pour leur foi. C'est pour cette raison que le christianisme, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, mes amis. La victoire est assurée. Notre monde appartient complètement et définitivement à Jésus-Christ. Voilà qui peut changer radicalement la façon dont nous considérons la vocation chrétienne, n'est-ce pas? Si nous acceptons cette invitation de Dieu à soumettre à Jésus tous les domaines de notre vie, simplement en l'embrassant, en l'accueillant comme un ami proche et fidèle, alors nous serons remplis de ce sentiment étrange dont il est question au verset 11. La crainte et l'allégresse en même temps. La crainte parce que notre roi est puissant, il est terrible. Mais l'allégresse parce que son salut est si généreux en fait. Amen. Je vous invite à prier. Merci notre Dieu, notre Père, de nous rappeler à travers ce psaume ce que tu as accompli pour les croyants par ton Fils Jésus-Christ. Et comme nous l'avons vu aujourd'hui, aide-nous s'il te plaît, par ton Saint-Esprit, aide-nous à avoir sur le monde qui nous entoure le bon regard, celui que tu veux que nous ayons par la lecture de ta parole, là où tu nous décris la réalité telle qu'elle est vraiment. Amen.